7h04, vous écoutez CHUFM, l'émission c'est Afrique Plus, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. J'ai dit bonjour à Bruno, Bruno bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà mesdames et messieurs, nous sommes contents, un autre samedi le 31 mai, la dernière journée de la, du mois de mai 2008. Et nous commençons notre émission comme suit, des intérêts économiques et financiers, le droit moral, les intérêts stratégiques dans la globalisation. Tout cela conduit plusieurs responsables occidentaux et africains à appuyer des guerres en Afrique. Alain Deneau et son équipe dans le livre Noir Canada le démontrent très bien. Écouler des armes et trafic de minerais dans la simple logique de vendre et de faire du profit sur le dos des simples populations avec la protection des amis en Occident au grand mépris des conséquences tout à fait estimables, notamment en crimes et affres de toutes sortes aux populations. La Cour pénale internationale pourrait-elle juger de manière juste, c'est-à-dire procédant à des arrestations des hommes et des femmes politiques du Nord, des affairistes du Nord qui sont aussi coupables des faits et crimes comme ceux reprochés aux voyous du tiers-monde, permettez-moi l'expression, des petits voyous souvent instrumentalisés par les grands de ce monde. Non, la Cour pénale internationale, malgré sa bonne volonté, aura du mal à oser mettre la main sur les délinquants du Nord. Ainsi, la suprématie du Nord sur le Sud est toujours omniprésente dans les relations et la loi des deux poids deux mesures pendant ce temps bat son plein. Arrêter Bemba, c'est une chose, c'est une très bonne chose pour les uns, mais il faudra aller plus loin. Bemba fut-il chef d'un groupe rebelle? Qu'allons-nous faire avec Rubewa? Qu'allons-nous faire avec Kunda? Qu'allons-nous faire avec d'autres qui sont encore là et qui nous gouvernent? Voilà, mesdames et messieurs, l'introduction d'Afrique Plus de 7h06. Je vous rappelle que ce matin, nous allons partir aux États-Unis à Missouri. Nous allons parler avec un Africain qui a la colonne vertébrale droite. Un Africain qui a la colonne vertébrale droite, en fait. Et il est écrivain. Et on aura en entrevue à notre émission africaine. Son nom, c'est Monsieur Roland Olu. Qui est aux États-Unis, qui est basé à Missouri, il est professeur là-bas, il écrit un livre « Pourquoi l'Afrique pleure et s'enfonce ? Les vraies causes et les solutions de la misère africaine ». Alors on aura 10 points à discuter avec lui, ça c'est en première partie de l'émission. En deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir Madame Marie-Martine Hubbard qui va nous parler de la promotion, il faut faire la promotion de ce qui se passe ici. À Ottawa aussi. On parlera de la cité collégiale. On va parler du programme de formation de base de l'Ontario qui est organisé. C'est un programme qui est donné à la cité collégiale. Ils viendront ici nous parler de ça. Madame Marie Hubbard sera là. Elle sera accompagnée d'une bénéficiaire de ce programme-là, Madame Sada Diri, qui est africaine de Djibouti. Alors voilà, c'est la deuxième partie de l'émission. Et Bruno nous a réservé cette fois-ci la page littéraire de l'émission Afrique Plus. Afrique Plus, on aura en gros plan Afrique pillage à huis clos. Comment une poignée d'initiés siphonne le pétrole africain. Un livre écrit par Xavier Harel que Bruno va nous présenter tout à l'heure. Pas vrai, Bruno, un petit commentaire peut-être?
Non, il faut patienter quand même.
Voilà, donc il faut patienter, il l'a dit lui-même, il est 7h08 et on va partir tout de suite avec quelques nouvelles comme ça que vous allez aller chercher vous-même sur votre ordinateur. On va vous les donner, mais en attendant, on vous passe une petite plaquette musicale et on revient tout de suite pour ça.
Wow! Bébé, 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 bébé la villa. Bébé la villa, la villa. Et seul l'amour est roi.
oublier ce qui s'est passé. Effacer, balayer et tout recommencer. Y'a fouille, y'a fouille, d'elle qui vit. Y'a fouille, y'a fouille, y'a l'idée fio.
Il faut que tu sois toi-même malgré ce qui s'efface. La vie est un choix, alors il faut savoir choisir. Bébé, la vie là, n'écoute pas les ondes. La vie est une joie dans laquelle il faut se battre. Il faut que tu sois toi-même malgré ce qui se passe. La vie est un choix, alors il faut savoir choisir. La vie.
Bébé, 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 bébé.
Permis de conduire? L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878.
Jocelyn Elinor est maintenant un agent CAM Transfer. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878.
Voilà, 5 minutes en Afrique. Alors, Bruno, raconte-nous, qu'est-ce qui est important à savoir cette semaine pour l'Afrique?
Je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, on va donner quelques points et puis les auditeurs pourront à leur guise aller chercher toute l'information sur Internet ou dans les médias autres qu'ils peuvent connaître. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, par exemple? Donc, cette semaine, depuis le 15 mai, il y a le congrès du SPLM à Djouba. Donc, le SPLM, c'est le People's Liberation Movement. Donc Djouba, c'est une ville du Sud-Soudan qui s'est pas encore relevée de la longue guerre civile. Donc c'est le congrès donc du mouvement de feu John Garang.
John Garang, oui, qui a été assassiné il y a pas longtemps.
Oui, donc ils se réunissent depuis le 15 mai donc à Djouba, donc leur fief historique. Et donc l'autre chose sur laquelle je voulais revenir et puis peut-être vous allez vous-même, chers auditeurs, aller chercher l'information sur Internet, c'est Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères françaises, va partir à Abidjan normalement mi-juin. Donc probablement le 11 et 12 juin. Donc juste une question, que va faire Kouchner à Abidjan? L'autre chose, c'est l'arrivée de Severstal, le géant russe de l'acier de Alexei Mordachov, qui vient de signer un accord, on va dire historique, avec la Mano River Resource Inc. Donc encore une probable souffrance à prévoir pour les peuples africains, grâce à leur richesse. Et puis, je voudrais revenir aussi sur la conférence pour le développement africain, quatrième du nom. C'est le TICAD, qui s'est déroulé du 28 au 30 mai à Tokyo. Donc, c'est un peu comme le Japon qui essaye de se préparer face à la Chine.
Après la Chine, voilà, donc pour la contre-attaque du continent africain. Ouais.
Et le dernier point, juste une interrogation, doit-on juger Bemba?
Voilà, et où doit-on juger Bemba? Ici, on juge Bemba. Pourquoi seulement lui, pas les autres? Vous écoutez Afrique Plus, restez là, il est 7h13 à notre montre. Merci Bruno, c'était 5 minutes en Afrique. On revient avec, on va chercher monsieur Roland Houlot, que nous allons chercher depuis les États-Unis à l'état de Missouri. Il est professeur là-bas, il a écrit le livre, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Ne quittez pas.
Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier, le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves. Même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit, ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc.
Voilà, nous avons en fond sonore la chanson Gibraltar, en fait, du musicien africain né en France, Abdelmalik. Roland Oulette Yaovi Oulo est ingénieur agronome, spécialiste en aménagement et gestion de l'environnement, ressources naturelles, génie rural, eau et forêt, pêche et faune. Actuellement, il poursuit ses études de doctorat aux États-Unis et d'Amérique en sciences végétales, entomologie et microbiologie. Né le 18 septembre 1975 au Bénin, il commença l'école à l'âge de 5 ans. Il obtient son certificat d'études primaires en 1987 et son brevet d'études de premier cycle en 1992. Il reçut par autodidactie ses baccalauréats série C mathématiques et physique et D biologie et physique respectivement en 95 et 96. Il obtient son diplôme de contrôleur de développement rural en 1998, sa maîtrise de sciences agronomie en 2001 et son diplôme d'ingénieur agronome avec la mention très bien en 2002. Il a travaillé en tant que consultant et chercheur à l'université d'Abomey Calavi au Bénin avant d'immigrer aux États-Unis d'Amérique où il vit en tant que résident permanent. Monsieur Roland Ouno est auteur de travaux et publications scientifiques dans les livres Le Bushing et le développement de l'Afrique, Pourquoi l'Afrique pleure et s'enfonce, La faillite des cadres et intellectuels africains. Roland Ouno est membre de plusieurs organisations professionnelles. Il y en a beaucoup. On va citer deux: American Association for the Advancement of Science et Canadian Society for Engineering in Agricultural Food Environment and Biological System. Voilà. Monsieur Ouno, est-ce que vous êtes avec moi? Bonjour depuis Missouri aux États-Unis. Il est 6h18 chez vous.
Exactement.
Comment vous allez, frère?
Oh, très bien.
Est-ce que la présentation était bonne?
Oh, très bien.
Alors, on vous a l'émission africaine parce que vous avez écrit un livre, Pourquoi l'Afrique pleure et s'enfonce, les vraies causes et solutions de la misère africaine.
Exactement.
Alors, la première question que nous avons posé, la situation que vit l'Afrique est un problème d'inadaptation des modèles et idéologies contemporains dominantes au contexte socio-historique propre du continent, ou est-ce plutôt qu'il faut chercher les vraies raisons des échecs? Sinon, selon vous, quelles sont les ressources réelles, externes ou internes, de la misère en Afrique?
Oh, merci, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous m'accordez d'aborder quelques aspects du problème de la misère africaine sur votre radio. Évidemment, comme vous le savez, la réponse aux questions de développement n'est pas du tout aisée compte tenu des multiples facteurs à intégrer dans le processus. Mais la succession et la diversité des échecs enregistrés sur le continent africain donnent raison à chercher les vraies causes de la misère africaine en dehors de la version classique jusque-là acceptée. Le fond du problème est que les cadres et les intellectuels africains sont incapables d'appliquer intelligemment leurs connaissances pour sortir le continent noir de la souffrance. Mais ce qui est pitoyable et regrettable, c'est que les Africains qui arrivent à trouver la solution et qui veulent parler ou agir dans l'intérêt des peuples, ceux-là, ils sont bloqués par beaucoup de facteurs allant de la famille jusqu'au sommet de l'État, en passant par les contraintes internationales, le syndicalisme radical, les opposants, la sorcellerie et par-dessus tout, les multiples mentalités erronées des Africains.
Et selon vous, pourquoi l'Afrique pleure et s'enfonce-t-elle, titre de votre ouvrage, l'Afrique se refuse-t-elle ou tarde-t-elle à payer le prix imaginaire et réel de l'avenir de ses propres enfants? Ou alors, dites-nous, les forces occultes qui l'entravent et la menace sont plus fortes que la volonté de ce continent.
Vous voyez, la réponse est complexe, mais je vais essayer de la résumer en quelques points. D'abord, c'est que en Afrique, au lieu que les gens regardent leurs problèmes en face, les Africains continuent d'accuser les autres, voyez-vous, notamment les Blancs. Et beaucoup d'Africains ont peur de réfléchir ou ne veulent pas réfléchir. Beaucoup ont peur de parler ou ne veulent pas ou ne peuvent pas parler. Beaucoup ont peur d'agir ou ne veulent pas le faire. Beaucoup de dirigeants sont des tarés, ne veulent pas apprendre. Beaucoup ont la connaissance mais ne veulent pas ou ne peuvent pas l'appliquer. Et dans le bon moment, il y a beaucoup de religieux qui sont tellement accrochés à des visions étriquées au point où ils ont oublié la politique. Vous avez beaucoup de politiciens qui sont peu techniques, beaucoup de techniciens qui ne veulent pas se mêler à la politique. Et quand les dictateurs prennent le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Quand les politiciens sont au pouvoir, ils écoutent peu les techniciens. Et quand les techniciens montent au pouvoir, ils agissent tout comme tout était technique. Et puis, dans tout ce système, il y a un syndicalisme radical et une opposition politique qui a tué l'Afrique et qui continue d'ailleurs à la tuer. Il y a beaucoup de compétences qui sont bafouées. Et pire, quand on sent que quelqu'un veut devenir quelque chose, on l'élimine, notamment à partir de son village. Et en Afrique, c'est ainsi qu'on a éliminé ou rejeté facilement les bras valides. Dans cet instant, les cerveaux sont peu promus et peu écoutés. Beaucoup ne veulent contribuer au succès des actions n'allant qu'à leur crédit. Et puis, dans tout ce système, il y a une mentalité et une méchanceté africaine qui ne permettront jamais et jamais encore le décollage et le progrès du continent noir. Vous voyez beaucoup de compétents, bras valides, pouvant faire la différence, qui chôment à la maison. Au profit des fainéants promus par leurs proches à des postes très importants et sensibles. Les diplômes obtenus ne sont toujours pas le symbole d'une dose de connaissances pouvant enclencher le développement. Et puis, les causes classiques du sous-développement de l'Afrique ont toujours ignoré la vraie dimension spirituelle du problème africain telles que la sorcellerie et les méchancetés. Malheureusement, alors que ces problèmes que je viens d'évoquer n'ont pas encore été résolus, la procréation en Afrique, comme vous le savez, en Afrique, multiplie la misère et les autres problèmes de ce développement à des vitesses effroyables. Et dans cette galère, beaucoup de cerveaux ont fini par fuir l'Afrique au profit de l'étranger. Et enfin, par-dessus tout, les puissances étrangères continuer à maintenir tactiquement l'Afrique dans la misère, etc. Hein.
Dites-moi, peut-on se développer selon vous en négligeant ou en refusant à produire les moyens et les instruments de développement? Quel est, d'après vous, parce que vous êtes un intellectuel, d'après vous, le rapport qu'il y a entre l'Afrique et ses élites? Et pouvez-vous nous dire si ceux-ci ou celles-là, les élites africaines, remplissent valablement leurs devoirs?
Vous savez, ce qui est évident, on ne peut pas parler de développement d'une nation ou sortie de la misère sans chercher à valoriser en premier lieu la valeur humaine, l'homme. Mais la meilleure vérité est que les cadres africains ont vachement failli dans leur mission. Et beaucoup de ces cadres continuent à plonger le continent noir dans le mauvais sens, plus que ne le font les puissances étrangères qui veulent évidemment à tout prix profiter de la pauvreté africaine pour demeurer en avance. Et ces puissances étrangères intoxiques anéantissent et cherchent à contrôler l'Afrique 7. Mais la réalité est que certains cadres africains ont livré eux-mêmes et continuent à livrer leur continent. Chacun d'entre eux semble s'accrocher à la résolution de ses problèmes personnels, à la défense des intérêts de son parti ou de son clan, à la recherche d'un travail pour la survie, sans en réalité se soucier du problème du développement des nations d'un point de vue plus large et noble. Et puis, cela ne veut pas dire que tous les Africains ne font rien pour se développer. Car en réalité, hein, comme vous le savez, depuis l'ère de l'esclavage, du colonialisme, jusqu'à nos jours, certains intellectuels africains cogitent. Mais ils n'ont pas encore trouvé la solution définitive à cette misère africaine. Et puis, le chemin semble encore long, et très long d'ailleurs. C'est pourquoi actuellement même j'ai un livre en France à l'édition Armatan qui est sous presse et qui sort même dans ce été, qui traite davantage de la question de la faillite des cadres et intellectuels africains.
Non, on rappelle à tout le monde que vous écoutez M. Roland Houlot, qui est basé au Missouri, en fait, qui est aux États-Unis, qui a une interview avec nous par rapport à pourquoi l'Afrique pleure et s'enfonce, son ouvrage, les vraies causes et solutions de la misère africaine. Alors, dites-nous, dans mon quatrième point, René Dumont, quelqu'un que vous connaissez, disait dans les années 60 que l'Afrique noire était mal parti. Ah ouais. Nous sommes en 2008 aujourd'hui. Quel est l'état du continent africain et comment, d'après vous, on peut changer les choses au mieux?
Merci. Vous voyez, hein, non seulement l'Afrique était mal partie, comme l'a dit Dumont, mais surtout l'Afrique, cette Afrique-là, n'est jamais arrivée. Et ces intellectuels ne savent pas là où ils drainent le continent. Évidemment, pendant des siècles, l'esclavage a vidé l'Afrique de ses ressources naturelles, disons naturelles et humaines, si vous êtes précis. Les colons ont volé les richesses naturelles de l'Afrique pendant longtemps, certes. De nos jours, on enferme cette Afrique-là sans fondement dans des dettes à payer sur longtemps, certes. Et de nouvelles variétés de domination et d'exploitation continuent leur cours, certes. Mais le gros du problème et de la solution à la misère africaine, je pense, revient aux Africains eux-mêmes. Ce ne sont pas les Blancs, disons les Occidentaux, qui viendraient relever le continent africain à la place des Africains eux-mêmes, car ces Blancs n'ont pas vraiment un grand intérêt à faire cela. Ainsi, à mon avis, pour trouver la solution durable à la misère africaine, il faut une révolution des intellectuels africains avertis et un soutien du peuple noir. Et puis, cela n'est pas une révolution à la manière militariste, mais je parle notamment des réformes à l'endroit de beaucoup de systèmes, tels que les systèmes éducatifs, les régimes politiques, les recrutements, la recherche scientifique, la créativité, les réformes à l'endroit de la démographie, la promotion des compétences, la lutte contre les sorciers et les autres mentalités erronées qui jusque-là ont arriéré l'Afrique. Et puis, je pense, en particulier, je pense que dans le contexte actuel, tant qu'on continuera à saccager la formation des jeunes Africains et à promouvoir la médiocrité et l'incompétence, je pense que le décollage du continent africain ne sera pas pour demain. Car en réalité, cette jeunesse africaine ne pourra pas relever les défis globaux qui l'attendent si, durant sa formation, elle vivote dans les systèmes éducatifs dominés par le parkour, le bishing, avant de se jeter dans la pagaille organisée par les vieux et la magouille diplomatique des puissances étrangères.
Voilà, dites-moi monsieur, je pense que nous allons, si vous permettez, nous allons avoir, ce serait la première partie de notre entrevue, et je pense que la semaine prochaine, si ça vous plaît, on pourra avoir la deuxième partie, la continuité de notre entrevue avec vous, parce que nous sommes pressés par les impératifs de temps. Mais est-ce que cela vous arrange?
Il n'y a pas de problème.
Ok, donc si cela vous arrange, ça m'arrange. Alors je vous poserai ma cinquième question, et ce serait peut-être la dernière, mais on reviendra la semaine prochaine avec la continuité de notre entrevue, si vous êtes d'accord.
Ok, il n'y a pas de problème.
Alors donc voilà, je vais à mon cinquième point. Dans votre livre, vous dites, je cite, beaucoup d'Africains ont peur de réfléchir ou ne veulent pas réfléchir. Beaucoup ont peur d'agir ou ne veulent pas agir. Beaucoup ont la connaissance, mais ne veulent ou ne peuvent pas appliquer leur savoir. Est-ce de la faux pessimisme ou de l'autoflagellation? Comment peut-on sortir vous au Missouri. Il est 7h33 ici à Ottawa. C'est l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci et on vous retrouve la semaine prochaine pour la continuité.
Merci et puis à bientôt.
À bientôt, au revoir. Voilà, voilà, voilà. Vous écoutez Afrique Plus, il est 7h35. Nous allons parler maintenant d'un sujet à l'autre de l'Afrique. Nous passons nous allons parler de la cité collégiale, promotion des programmes, la promotion du programme de formation de base de l'Ontario à la cité collégiale. Voilà. Et nous avons Marie Martin Hubert. Madame Hubert, bonjour et bienvenue dans l'émission africaine.
Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Nous avons, vous avez avec vous aussi Madame Sada Diri, ouais, et qui est africaine d'origine djiboutienne, qui est avec nous. Bonjour Madame.
Oui, bonjour. Je vous remercie et merci de votre patience.
C'est nous qui sommes enchantés de vous avoir aussi tôt le matin à 7h. Merci de vous lever tôt. Donc je commence avec vous Madame Hubert. Dites-nous la première question, Marie, dites-nous, pourriez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste exactement le programme de formation de base de l'Ontario?
Oui, sûrement. Le programme de formation de base de l'Ontario, ou le FBO, comme on l'appelle, est conçu pour des adultes de 19 ans et plus qui n'ont pas terminé leurs études secondaires. En ce moment, nous avons à peu près 250 étudiants. C'est un programme qui prépare à des études collégiales ou au marché du travail. Puis au FBO, on s'en tient aux matières de base, c'est-à-dire le français, les mathématiques, les sciences, par sciences on entend bio, chimie, physique, la micro-informatique et l'autogestion.
Alors dites-moi, est-il vrai qu'une personne ayant déjà un diplôme d'études secondaires en poche peut s'inscrire au FBO, si vous permettez l'expression?
Oui, tout à fait. On va prendre un exemple. Supposons que j'ai madame qui a fait ses études secondaires à l'étranger. Elle s'est mariée, elle a quitté son pays, a eu des enfants, les a élevés. Les années passent, puis elle décide de retourner étudier afin de se trouver un emploi. Mais voilà. Il y a un moment déjà qu'elle n'a pas étudié, et déjà qu'elle a quitté l'école, elle n'est plus sûre de bien souvenir si et ni si ce qu'elle a appris correspond à, équivaut à ce qui s'enseigne au Canada. Alors Jean-Marie, le FBO est une solution toute désignée pour Notre-Dame. Parce que le FBO va lui donner l'occasion de mettre ses connaissances et ses compétences à jour et de se préparer tranquillement au programme d'études auquel elle veut s'inscrire.
Alors, dites-moi, quelles sont les particularités de ce programme qui pourraient intéresser nos auditeurs ou auditrices et être avantageuses pour eux ou elles, en fait?
Premièrement, le FBO, et oui, vous entendez bien, le FBO est entièrement gratuit pour les résidents de l'Ontario. Et même les frais de transport, je pense à l'autobus, sont couverts dans une certaine mesure. Et enfin, on peut jouir d'une gamme de services propres à toute grande institution d'enseignement. Ensuite, si vous me permettez de continuer, Jean-Marie, que le FBO se distingue par sa grande flexibilité. Vous pouvez vous y inscrire en tout temps, 12 mois par année. Et l'horaire est fait sur mesure. C'est un horaire qui tiendra compte de vos obligations professionnelles et familiales. Enfin, on a la possibilité d'étudier à temps partiel, minimum 3 heures par semaine, aussi bien qu'à temps plein, et ce, le soir comme le jour. Puis je m'en voudrais de pas souligner l'encadrement dont bénéficie chaque étudiant.
C'est le temps et le lieu de le souligner.
Oui, parce qu'au FBO, personne n'est laissé à lui-même. Les enseignants sont très disponibles et chaque étudiant rencontre la conseillère pédagogique à tous les 2 mois ou moins. Et dites-moi, Jean-Marie, si on trouve la même chose dans une école secondaire normale.
C'est vraiment de l'encadrement. C'est du service, comme dirait quelqu'un.
Oui, voilà.
De manière concrète, alors, dites-moi, comment fonctionne le programme?
C'est très simple. D'abord, on prend le téléphone, on fixe un rendez-vous en appelant au 613-742-2800. Je répète, 613-742-2800. Ou on se présente en personne à la cité collégiale au pavillon D, 3e étage. dès que le rendez-vous est fixé, on passe un test de classement auquel, je précise, il est impossible, qu'il est impossible d'échouer parce que ça sert simplement à indiquer où on en est dans les matières de base. Dans les 8 jours, on reçoit le résultat des tests. On rencontre alors un conseiller et ensemble, selon ce qu'on désire faire et selon notre situation personnelle, on élabore un plan de formation. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. On commence à étudier et en classe, l'étudiant avance à son propre rythme. Parce que comment ça fonctionne, c'est que la matière est divisée en modules et à chaque module, il y a un examen et l'étudiant passe l'examen lorsqu'il se sent prêt. Puis ce qui est bien, ce qui est motivant, c'est qu'il reçoit les résultats dans les jours qui suivent.
Dans les jours qui suivent, voilà. Et quelles sont les possibilités qu'offre quelles possibilités offre le certificat d'études secondaires décerné par la cité collégiale?
Bon, le certificat d'études secondaires donné par la cité collégiale permet d'abord de retourner sur le marché du travail. Parce que vous savez que les études secondaires sont désormais considérées comme le minimum par la grande majorité des employeurs. En deuxième lieu, un finissant du FBO peut également s'inscrire à l'un des 80 programmes de la cité collégiale. C'est une avenue intéressante quand on sait que le taux moyen de placement est de 91 %. Et enfin, nos auditeurs, je pense qu'ils aimeraient savoir qu'en vertu d'entente signée avec certaines universités, un étudiant diplômé, prenons par exemple en technique de service social de la cité collégiale, pourrait être admis au baccalauréat à l'Université d'Ottawa sans avoir à suivre presque tous les cours de première année. Alors, c'est une importante économie d'argent quand on sait ce que coûte une année à l'université.
Donc, on vous rappelle, mesdames et messieurs, si vous écoutez que c'est, nous sommes, si vous écoutez Afrique Plus, nous sommes, nous étions avec Marie Martin-Hubert, qui est coordonnatrice du programme FBO, en fait. C'est ça, la véritable histoire. Et qui nous parlait un peu, de comment, c'est quoi, en fait, ce programme-là. Et en terminant, juste la dernière question, disons que je suis intéressé à ce programme et je viens de vous écouter à la radio. Que dois-je faire si je vous écoute, je suis chez moi et je suis intéressé au programme?
Oui, d'abord, si vous me permettez, Jean-Marie, non, je ne suis pas la coordonnatrice. Ah. Je suis l'agent de promotion du programme.
OK, voilà.
Le coordonnateur est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi, Julien Cotta.
Voilà.
Et bien,
La précision vaut la peine.
Oui, je pense que... Okay. Et c'est pour, donc, quelqu'un qui est intéressé à simplement appeler pour prendre rendez-vous au 613-742-2800. Et Sylvie va prendre le rendez-vous. Un grand merci, Jean-Marie.
C'est nous qui vous remercions, Madame Martin-Hubert, Marie Martin-Hubert. Et passons juste une pause musicale pour faire un peu une transition. Et nous sommes avec une bénéficiaire de ce programme, ça tombe bien. Et il faut lier le sujet à l'action. Je perds un peu mon mot, mais bon, voilà, je vais le retrouver juste après la pause musicale.
Merci beaucoup à tous
nos
auditeurs.
C'est la foule qui vous remercie.
Sana 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 s
vous écoutez toujours Afrique Plus. Il est 7h45 à notre monde ici. Le numéro de téléphone à composer, c'est le 613-562-5967. Je vous rappelle que nous sommes avec Madame Sada Diri. Sada Diri qui est une bénéficiaire du programme FBO, un programme de formation de base de l'Ontario à la cité collégiale ici à Ottawa. Madame Sada Diri, l'Afrique vous dit bonjour.
Bonjour, je vous remercie.
Alors dites-moi, pourriez-nous nous raconter comment vous êtes venu l'idée de vous inscrire au programme de formation de base de l'Ontario?
Oh, merci beaucoup. Je me suis inscrite dans ce programme-là quand ma plus jeune, comme je suis mère de cet enfant, ma plus jeune a commencé son école. Je me suis dit qu'il fallait que je retourne aux études pour pouvoir travailler au plus tard. Donc, j'ai téléphoné à la cité collégiale, le numéro que Marie vient de vous donner.
Donc, le 613-742-2493, et voilà, le poste est le 2800.
Parfaitement. Et j'ai pris rendez-vous avec Sylvie, qui m'a demandé la date qui me convenait. Donc, j'avais vraiment déjà apprécié ce premier geste. Et j'ai pris mon rendez-vous, je suis allée et j'ai composé un premier test d'évaluation pour voir un peu le niveau. C'était pas un test de classement ou de moyenne, mais c'était juste comme évaluer le niveau de chaque étudiant. Voilà, j'ai passé ces tests-là et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris rendez-vous pour commencer mes cours.
Alors, dites-moi, comment s'est passée l'inscription et quel accueil avez-vous reçu? Parce que c'est important, tout ça, de se sentir à l'aise avec où on va à l'école, les institutions, les dirigeants, les enseignants et tout. Comment s'est passée l'inscription et quel accueil vous avez reçu?
Oh, merci beaucoup. J'ai vraiment reçu un accueil que je n'avais pas reçu depuis longtemps. Je suis de l'Afrique de l'Est, je suis de Djibouti.
Mais vous êtes africain de Djibouti, oui.
Oui, et les Africains sont plus chaleureux ce que j'ai remarqué ici au Canada. Donc j'ai reçu vraiment un accueil chaleureux, comme si c'était des gens que je connaissais déjà. Donc, j'ai été un peu dirigée, guidée, avec beaucoup d'assurance. On me disait, oui, passer les tests d'abord, parce que j'avais peur de passer des tests, vu que j'avais pas étudié depuis comme 20 ans à peu près. Donc, j'avais un peu peur de cette évaluation, mais dès le premier jour, on m'a mise à l'aise pour me dire, oui, ce test-là, c'est juste un test de classement pour que vous démarriez votre programme. Ce n'est pas un test pour vous juger ou pour vous classer ou vous donner une note. C'est juste un petit test pour voir où est-ce que vous en êtes.
Voilà. Et dites-moi, le programme vous permettait-il de combiner les études, les enfants, la maison et le travail?
Ah oui, ça, parfaitement.
Racontez-nous voir ça.
Merci beaucoup. Comme je l'ai mentionné au début, j'ai 7 enfants de entre 20 et 6 ans maintenant, aujourd'hui. Donc, je suis une mère à temps partiel à la maison et j'ai commencé mes cours à la cité, c'est-à-dire en FBO.
Ça, c'est spécial, ça, d'être mère à temps partiel.
Oui.
Parce qu'on était toujours mère à temps plein.
Non, parce que l'autre moitié, j'ai consacré pour mes études.
Okay.
Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je suis mère à temps partiel, parce que la moitié du reste, je suis à l'école maintenant.
Oui.
Donc, c'est pour ça que vraiment, c'était un programme qui me convenait, qui était très flexible, il y avait une très grande compréhension aussi si j'avais une absence d'une journée ou de deux journées. Il suffisait que je téléphone pour expliquer un peu à mes raisons.
La situation et tout.
Exactement, parce que c'est un peu d'abord la famille, les enfants. Donc, s'il y a des urgences, c'est vraiment des gens très compréhensibles.
Dites-nous, en classe, est-ce que vous receviez toute l'aide que vous aviez besoin?
Parfaitement. Ça, je peux dire que j'étais vraiment, je n'arrive jusqu'à présent pas à oublier cette famille parce qu'aujourd'hui, c'est comme une famille pour moi. Je suis maintenant en technique de travail social en gérontologie. Mm-hmm. Je suis dans un programme cette année. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont donné cette assurance, qui m'ont vraiment aidé à acheminer dans ce programme-là. Ils m'ont, en quelque sorte, c'était pour moi, Il fallait, j'avais tellement des questions dans ma tête quand j'ai commencé ce programme de FBO. Je me cherchais vraiment moi-même. Donc, ils étaient là. Je peux nommer certains enseignants comme Monsieur Julien Cotta et Monsieur Alain Michaud, qui m'ont vraiment, ils étaient là pour répondre à toutes mes questions.
Donc, vous avez vraiment aimé votre expérience là-bas?
Exactement. Mmh. Si je suis, jusqu'à présent, je n'arrive pas à les... Enfin, je ne peux pas les oublier, mais même si je suis à la cité collégiale et que je suis dans un autre programme, mm-hmm. il m'arrive d'aller là-bas au troisième étage, en D, pour leur dire « Allô, bonjour ». Donc, voilà. C'est pour vous dire que même jusqu'à présent, si j'ai besoin de quelque chose ou si j'ai besoin de poser des questions...
Vous avez des personnes ressources.
Exactement. J'ai des personnes qui sont là. Je les considère vraiment comme une famille.
Après votre passage au FBO, qu'avez-vous l'intention de faire
Avec ce programme-là, ce programme-là aussi nous permet de connaître les programmes de la cité collégiale. C'est là que j'ai découvert, parce que il y a des coordonnateurs des programmes qui passent à tour de rôle pour nous parler de chaque programme. Et chaque coordonnateur nous parle de son programme spécifique. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai choisi ce programme-là. Lors de la présentation, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'aimerais faire. Et c'est là que j'ai choisi ce programme que je suis en train d'étudier actuellement et que j'ai fini ma première année. Mm-hmm. C'est le technique de travail social en gérontologie.
Voilà, dites-moi, le fait d'être à la cité depuis un moment déjà, vous a-t-il facilité les choses? Si oui, de quelle manière?
Oui, je peux dire que, étant donné que je suis mère de 7 enfants, j'ai beaucoup de besoins financiers. Et comme j'ai eu accès au transport, aux frais de transport, j'avais les frais de chaque mois de transport, dossier transport. J'ai bénéficié d'abord et ça m'a beaucoup aidé. La deuxième chose, maintenant que je suis en première, que j'étais en première année, j'ai eu une bourse de la cité collégiale, la bourse de la fondation. Donc, j'ai vraiment apprécié parce que c'est un coup de pouce en quelque sorte. Parce que comme c'est un programme à temps plein, je ne peux pas me permettre d'aller travailler.
Tout à fait.
Le reste du temps, je suis avec les enfants et avec mes travaux et mes devoirs à la maison.
En tout cas, coup de chapeau, hein. Vous en avez 7, pour la petite histoire, je vous dis, en 30 secondes, ma mère, elle en avait 12, en fait. Donc, pour vous dire, je me demande toujours comment est-ce qu'elle a pu faire ça. Moi, j'en ai un et c'est comme si j'en avais 7, alors. Je sais de quoi il s'agit. Alors, pour continuer l'interview avec vous, ma dernière question pour vous laisser partir. Je sais que vous êtes occupé, vous avez un programme chargé. Si certaines personnes qui nous écoutent, nos auditeurs ou nos auditrices qui nous écoutent, désirent avoir des informations, que doivent-ils faire? Est-ce que vous avez des conseils à leur dire? Qu'est-ce qui serait important pour eux de faire?
Merci. Je donnerai d'abord un conseil, ça c'est sûr, parce que moi-même, au début, je n'étais pas sûre de moi-même. J'avais un peu peur, mais dès que j'ai commencé et dès que je me suis lancée, j'ai eu vraiment une très bonne expérience. Mm-hmm. Donc, j'encouragerais, si ne serait-ce même si avec mon témoignage, si ne serait-ce que une personne qui m'écoute s'inscrive dans ce programme, ça serait une très bonne chose pour moi. Donc, c'est pour vous dire que n'ayez pas peur, allez-y. C'est sûr que le début c'est pas facile, mais vous allez voir, c'est comme une famille d'Afrique. Pour moi, je n'arrive jusqu'à présent, c'est ma famille, dans ma première famille ici à Ottawa.
Et voilà, c'était Madame Sada Diri, c'était toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci d'être passé à notre émission. Merci aussi à Madame Marie Houba d'avoir programmé et arrangé toute cette entrevue ici. Et nous sommes avec vous, on vous soutient. Si vous avez des compléments d'informations, des informations que vous voulez faire passer, vous pouvez nous les envoyer et l'émission africaine sera là pour vous servir.
Un grand merci, Jean-Marie.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Merci beaucoup.
Voilà, donc c'est Dieudonné sur Afrique Plus, la radio de l'Université d'Ottawa.
Voilà, vous écoutez Afrique Plus, nous sommes en direct depuis la station de radio CHO au cœur de l'Université d'Ottawa. Bruno, est-ce qu'on a quelques minutes pour la revue littéraire Afrique Plus?
Je ne sais pas si on va avoir le temps, mais on va essayer de faire quelque chose.
Allez, on y va.
Le pétrole, loin d'être une bénédiction, a davantage appauvri les pays producteurs qu'il ne les a enrichis. Donc c'est juste pour vous donner un petit avant-goût. Afrique, pillage à huis clos, un ouvrage de Xavier Harel, paru aux éditions Fayard. Donc en fait, comment une poignée d'initiés siphonne le pétrole africain. Pillage à huis clos donc, Xavier Harel. Les matières premières et le pillage orchestré. Xavier Harel en fait est un journaliste d'investigation qui a fouillé donc à Paris, à Londres, au Nigeria et ailleurs afin de démonter un engrenage bien huilé de prédation et de prébande, orchestré bien souvent au plus haut niveau. L'objectif initial, si l'on peut dire, était de répondre à la fameuse question à plusieurs millions. Où va la manne pétrolière du Gabon, du Congo-Brazzaville, même du Nigeria? Mais la recherche d'Harel porte surtout sur le scandale congolais, puisqu'on peut vraiment dire que c'est un scandale. Pour ceux d'entre vous qui suivent un peu ces histoires de pillage et de détournement que subit l'Afrique, l'affaire Elf, vous voyez, eh bien, le Congo de Sassou est l'espace privilégié des acteurs france-africains. Ces fameux acteurs qui se déplacent dans cette sphère occulte et mafieuse de prédation. Avec l'ouvrage d'Harel, on peut suivre l'itinéraire d'un pétrolier chargé de brut à Pointe-Noire et qui se retrouve raffiné pour une compagnie